Spider-Man, c'est génial. Vous ne me croyez pas? Vous allez voir.
Carte d'identité. Nom.
Spider-Man.
Identité civile.
Peter Parker.
Fonction.
Super-héros.
Signe distinctif.
Costume rouge et bleu.
Ville.
New York.
Date de naissance.
1962. C'est l'histoire d'un super-héros qui aurait pu ne jamais voir le jour. Un héros qui s'appelle Araignée, ça ne peut pas marcher. Tout le monde déteste les araignées. Un héros adolescent, ça ne fait pas sérieux. Les adolescents sont éventuellement les associés des super-héros, mais jamais le héros principal. Un héros, ça doit être grand et musclé. Or, Peter Parker est un étudiant gringalet, coincé et surprotégé par sa tante. Ça ne peut pas fonctionner. Voilà ce qu'entendent le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko quand ils présentent leur personnage de BD Spider-Man. Personne n'en veut. Mais les deux hommes persistent et décident de publier la première aventure de leur homme araignée dans le tout dernier numéro d'un magazine qui va de toute façon cesser d'être publié, Amazing Fantasy. Le magazine paraît en août 1962 avec une étrange silhouette en couverture. Un super-héros au costume rouge et bleu qui se balance au bout d'une toile en plein ciel et qui tient un méchant de son bras droit, c'est Spider-Man. Et le numéro est un immense succès, le plus grand triomphe de l'année. Alors évidemment, tout le monde change d'avis. Et quelques mois plus tard, en mars 1963, paraît le tout premier numéro d'Amazing Spider-Man. La série existe encore aujourd'hui. Et Spider-Man est un des personnages de fiction les plus connus dans le monde et un des plus géniaux.
Who are you?
You know who I am.
I do.
Your friendly neighborhood Spider-Man.
Pourquoi? Parce qu'il est un adolescent comme les autres, avec des problèmes d'adolescent, comme ses jeunes lecteurs. Il doit combattre des méchants, comme le Bouffon Vert et le Docteur Octopus, d'accord, mais il doit aussi étudier pour réussir ses contrôles de maths. Parce qu'il n'est pas riche, il doit travailler comme photographe pour aider sa tante May à payer les factures. Et parce qu'il doit apprendre à maîtriser un pouvoir qui lui est tombé dessus par accident, un pouvoir énorme qui lui donne de grandes responsabilités. Et ce n'est pas facile d'être un super-héros quand on est si jeune.
With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse. Who am I?
Les BD de Spider-Man ont 60 ans cette année. Mais si Spider-Man est une star mondiale aujourd'hui, il le doit aussi au cinéma. Il y a eu 3 versions du tisseur sur grand écran depuis 2002, avec 11 films au total jusqu'ici. Et ce n'est pas prêt de se terminer, puisque le dernier en date, Spider-Man No Way Home de 2021, a récolté presque 2 milliards de dollars en salles, devenant le 6e plus gros succès commercial de l'histoire du cinéma. Preuve par les chiffres que beaucoup de monde trouve que Spider-Man, il est amazing, stupéfiant, mais il est aussi et surtout génial.
Et voilà, 3 qualificatifs pour un seul homme. On va voir si vraiment ils sont mérités, ces qualificatifs. Et pour en parler ce matin avec moi, il y a Olivier Delcroix. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes l'auteur du livre Les super-héros au cinéma, paru aux éditions Houbeck. Et un petit peu plus près de moi, ici en studio, il y a Gilles Deguen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libraire chez Slumberland et grand fan de l'homme araignée. Alors bienvenue à tous les deux, monsieur. Et première question, pourquoi Spider-Man est-il, selon vous, un super-héros génial? C'est votre avis personnel qui m'intéresse et attention, grimper au mur n'est pas un argument recevable.
Pour moi, il est génial parce que il rassemble pas mal de monde. Mm-hmm. Il est tout le temps disponible pour essayer d'aider tous ceux qu'il peut, même au détriment de sa propre vie personnelle. Mm-hmm. Il fait un maximum.
Mm-hmm. Un super-héros altruiste. Donc, Olivier, pour vous, pourquoi Spider-Man est-il particulièrement génial dans la cosmogonie Marvel, peut-être?
D'abord, c'est surtout pour moi, puisque vous m'avez demandé, oui, de faire une réponse personnelle, c'est un vieux compagnon. Mm-hmm. C'est un vieux compagnon qui, en même temps, évidemment, bénéficie d'une éternelle jeunesse. C'était l'adolescent que j'étais, que je fus, et qui reste là à mes côtés. Donc c'est super. C'est super de savoir qu'un personnage comme lui et moi ont fusionné à un moment donné dans ma jeunesse, et je me suis complètement identifié à lui. Et en fait, Spider-Man, c'est véritablement un héros qui est l'adolescent type. Mm-hmm. Il est l'éternel adolescent. C'est le passage à la puberté, hein. Mm-hmm. Donc c'est un personnage qui est effectivement piqué par une araignée lors d'une sortie scolaire, ouais. Et qui après va acquérir des pouvoirs. Ces pouvoirs sont à la fois énormes pour lui et en même temps une vraie malédiction. C'est aussi effectivement dans le premier film de Sam Raimi qui est sorti en 2002, à un moment donné, on le voit très bien dans le film, il se réveille après avoir été piqué et du gringalet qu'il était, il est devenu un homme formidable et mm-hmm. tout d'un coup, de ses poignets jaillissent une substance bizarre et blanche et à la fois il en est tout honteux et en même temps il en est tout joyeux et il va commencer à composer avec cette sortie de l'enfance. Effectivement, il y a quand même une sorte d'ode à l'onanisme dans le, le personnage de Spider-Man.
Assez clair, effectivement, dans lequel effectivement le public féminin ne se retrouve peut-être pas, en tout cas pas à ce point-là.
Mais en tout cas, ouais. Voilà, c'est le principe même de l'idée de dire adieu à l'enfance, ouais. et de se dire, bon, on va se colter avec le monde des adultes et c'est justement ce que cristallise quelque part le personnage de Spider-Man, mm-hmm. c'est cette espèce de ligne de fracture qui reste évidemment un moment passionnant pour tous les hommes et les femmes du monde, ce moment où on quitte l'enfance, on commence à la quitter, en même temps on est nostalgique, et ce moment où on va aller vers les autres, aller vers le monde des adultes, et Spider-Man c'est ça, c'est, mm-hmm. c'est pour ça qu'aussi il est si populaire. Il a cette fragilité, il a ce côté attachant et en même temps, il a cette volonté d'aller vers l'avant.
Oui.
Alors, c'est ce qui fait aussi que Miles Morales est devenu populaire, peut-être plus que Peter Parker à l'heure actuelle, puisqu'il est un adolescent, qu'il renoue avec le personnage qu'était Peter Parker au début de sa carrière.
Oui, oui, tout à fait. Mais justement, on va rester là-dessus. Spider-Man, on l'a dit dans le dossier d'introduction, c'est le premier super-héros adolescent, donc c'est pas un adulte, c'est pas un extraterrestre, etc. C'est un gamin de tous les jours qui va se retrouver avec ce pouvoir vraiment dans les bras. Qu'est-ce que ça va changer dans le positionnement par rapport au lecteur et qu'est-ce que ça a ouvert en possibilité dans la narration de décider que ce super-héros est aussi un ado?
Ben, ça le permet de le situer dans des problématiques que les jeunes connaissent aussi.
Mm-hmm. Ok. Bah oui, on n'aurait pas dit mieux, mais
évidemment, quand Stan Lee et Steve Ditko inventent le personnage de Spider-Man, il s'ouvre un véritable boulevard. C'est qu'en fait, ouais. Au lieu d'être sur les brisés des super-héros classiques, à la Superman, à la Spider-Man, qui sont déjà des hommes et des quelque part des patriotes mm-hmm. Dotés de super-pouvoirs, on est toujours sur l'imagerie de qu'est-ce que c'est qu'un héros et qu'est-ce que c'est qu'un super-héros.
Ouais.
Parce que c'est la marque de fabrique des États-Unis d'avoir rajouté le mot super au mot héros pour faire quelque chose d'encore plus fort que le vieux continent, que nous autres occidentaux. Mais donc, ce super-héros qu'est Spider-Man, lui, il s'ouvre un boulevard. Pourquoi ? Parce que, tout d'un coup, au lieu de raconter des faits héroïques tirés un peu de la mythologie grecque, hein, c'est-à-dire mm-hmm. en fait des grosses batailles, des combats homériques, comme je l'ai dit, non, lui, en fait, on raconte sa vie, on raconte sa vie de tous les jours, on fait une sorte de feuilleton un peu à la Ponson du Terrail, où finalement on va raconter ses petites misères. Honnêtement, Steve Ditko et Stan Lee, quand ils créent Peter Parker, ils savent très bien qu'ils vont faire une sorte de Calimero des super-héros. C'est qu'en fait, c'est vraiment trop injuste ce qui lui arrive quand même.
Mm-hmm. Alors, et tout ce qui lui arrive, le matin, c'est de sa faute, généralement.
Oui. Et bien sûr, voilà, donc ouais. c'est vraiment Calimero, et donc c'est formidable, il est pas bien, il se fait taper dessus par ses comparses, par les élèves qui le trouvent trop nul, il est incapable de draguer correctement une jeune femme, c'est pas possible, une jeune fille, il est très timide, et il a pas assez d'argent, donc il doit subvenir aux besoins de sa tante May en devenant photographe au Daily Bugle, enfin, il lui arrive tout un tas de problèmes et c'est ça qui fait qu'il se rapproche de nous et à partir de ce moment-là, tout d'un coup, on a une sorte de romance, de sitcom qui se croise mm-hmm. Avec la bande dessinée de super-héros,
ouais.
Et c'est génial cette idée. Voilà, vous faites déjà un premier crossover de l'histoire dès ouais. 62.
Effectivement.
Et puis il y a des paradoxes aussi comme Flash qui s'en prend systématiquement à Peter Parker, tout en étant un énorme fan de Spider-Man lui-même.
Mm-hmm. Ouais, effectivement.
Oui, Flash Thompson, oui.
Ouais, ouais. Donc il y a des rivalités. Et c'est vrai qu'on est fort dans l'empathie vis-à-vis de Spider-Man, parce qu'effectivement, il lui arrive misère sur misère. On invente aussi la figure du super-héros faillible, là où on rappelle quand même qu'en 62, on est en plein âge d'argent, donc c'est la deuxième période faste pour les comics, après le creux des années 50, et c'est le retour de Superman, de Batman, de Wonder Woman, de toute la Justice League, donc on a des grandes figures mythologiques, et au milieu, effectivement, on a ce petit gringalet qui a plein de problèmes, et qui est assez immature aussi, finalement.
Mais surtout qu'il se bat à son propre niveau, il se bat que dans son quartier, et quand il atterrit dans une bagarre qui le dépasse, tout le monde le voit.
Oui, effectivement, c'est un super-héros local, finalement, ce phénomène.
Exactement. Si vous me permettez une petite... Là, parce qu'on était dans une sorte de recontextualisation des années 60, c'est vrai que l'année 62 est une année formidable, hein, il faut quand même le dire. En plus, là, nous, en 2022, on a beaucoup plus l'occasion de se rendre compte, ça fait 60 ans, mais c'est l'année où, tout d'un coup, on est en train de mettre en place la pop culture que nous avons maintenant. Mm-hmm. 62, c'est la naissance de James Bond au cinéma, avec la sortie de Dr. No et Sean Connery. C'est la naissance des Beatles, Love Me Do, en 1962. Tout d'un coup, la pop musique, le rock ne va plus être le même. Les Beatles arrivent et vont révolutionner tout. Et 62 aussi, en Belgique, par exemple, c'est la sortie d'un album qui m'est particulièrement cher. C'est le Piège diabolique de Blake et Mortimer. C'est le dernier grand album d'Edgar Pierre Jacobs. Et c'est un album absolument formidable qui s'intéresse à la fois au passé, au présent et à l'avenir, et qui dresse une carte incroyable du vieux continent. Donc, aux États-Unis, par exemple, c'est la sortie d'un roman de science-fiction magique, c'est Le Maître du Haut-Château de Philip K. Dick. Donc 62, et puis c'est aussi la fin des mythes, c'est la mort de Marilyn Monroe. Donc vous avez les vieux mythes anciens qui sont faillibles, qui vont tomber, et puis la naissance de nouveaux mythes. Donc c'est vrai que c'est une période extraordinairement riche, je ne sais pas d'ailleurs comment on va pouvoir s'en rendre compte après, et c'est à ce moment-là, à ce moment même, que naît un personnage comme Spider-Man. Mmh. C'est étonnant de se rendre compte à quel point finalement il est l'ambassadeur de ces années extraordinaires qui sont le germe de la pop culture.
Ouais, et c'est aussi effectivement, ça va rester pendant longtemps en tout cas, une des têtes de pont de la maison Marvel, qui à la base est quand même l'outsider, qui va être complètement propulsé par le génie de Stan Lee, de Steve Ditko, de John Kirby. Est-ce qu'on peut dire, Gilles, peut-être que c'est déjà à ce moment-là, c'est dès l'apparition de Spider-Man qu'arrive l'émulation, la rivalité entre DC et Marvel? Alors, on sait qu'entre eux, finalement, ils s'entendent pas trop mal, mais les fans ont souvent tendance à s'écharper entre les deux grandes maisons.
Ah, il y a des clans, ça c'est sûr. Hein. Il y a les pro-DC, il y a les pro-Marvel. Il faut aussi souligner que ils ont mis un petit tiret entre le Spider et Man pour se différencier de Superman. C'est une intention claire dès le départ.
Ok, donc ça c'était vraiment voulu, quoi.
Ouais, c'est voulu.
Ok.
Voilà. Oui, il y a des clans entre les équipes, et souvent on a des lecteurs qui vont préférer un éditeur plutôt qu'un autre, mm-hmm. et des personnages plutôt qu'un autre. Et Spider-Man, ça c'est clair. Ouais. Lui, il l'emporte par rapport à tout le reste du catalogue chez Marvel. Ça c'est
Ça se marque encore aujourd'hui.
Ça se marque encore aujourd'hui, tout à fait. En librairie, on peut voir ce genre de choses. Personnellement, si je vais mettre tout le catalogue Marvel sur table, mm-hmm. eh bien, je vais vendre au moins 80% de Spider-Man.
Mm-hmm. Est-ce que Spider-Man, parce qu'on sait aussi que ce côté, on en parlait, vous en parliez, Olivier Delcroix, de cette instillation de la dynamique sitcom que créent les auteurs dans Spider-Man, ça va aussi devenir une marque de fabrique chez Marvel. Hein, ce côté sitcom, les héros Marvel ont quand même tendance à être effectivement plus faillibles, plus humains presque que les héros DC, qui sont dans l'incarnation de ces grandes figures mythologiques.
Les héros d'ici sont quasiment tous des dieux.
Oui. Ouais.
À part Superman, Batman, qui vient d'une autre planète, c'est quasiment Jésus.
c'est pas vrai.
C'est Moïse.
Wonder Woman, c'est une déesse. Mm-hmm. Tous les personnages ont quelque chose de divin, hormis Batman, qui lui est tout à fait profondément humain, comme peut l'être Spider-Man, en étant plus sûr de lui.
Mm-hmm.
Oui, la grande différence entre DC Comics et Marvel, c'est qu'effectivement, DC Comics est né dans les années 40, 38 en fait, puisque c'est la naissance de Superman. Cela correspondait en fait aux besoins des Américains de se créer des héros au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a quelque chose de très, finalement, dans l'ADN des super-héros de DC Comics, de très patriotique, et il fallait créer des personnages comme Captain America, enfin, comme Superman, comme Batman et Wonder Woman, qui soient capables de lutter contre l'envahisseur, contre Hitler, etc. Mm-hmm. Dans les années 60, quand Stan Lee invente Hulk, quand Stan Lee invente tous ces personnages, les Quatre Fantastiques, etc., et Spider-Man, on n'est plus dans cette période-là. Effectivement, les années 60, c'est plutôt, et c'est d'ailleurs ce qui se caractérise Marvel, c'est le côté pop.
Le rapport à la science aussi, au progrès technologique.
Exactement, le rapport à la science. Et puis, il faut se rendre compte aussi que Timely Comics, qui va devenir Marvel Comics, est un éditeur de pulps. Et les pulps, c'était petits fascicules de imprimés sur du papier recyclé. Met en avant des monstres. Mmh. Et donc, en réalité, c'est sa spécialité. Et au départ, ce qu'on demande, ce que Martin Goodman demande à Stan Lee, c'est de faire du neuf avec du vieux, et donc de créer des personnages de super-héros avec des vieux monstres, qui est quand même la spécialité de la maison. C'est pour ça qu'au départ, les Quatre Fantastiques, au départ Hulk, et tous ces personnages, y compris d'ailleurs le Marinier, sont les personnages de Marvel, sont au départ des monstres transformés, métamorphosés, de manière plus ou moins évidente.
Des victimes d'accidents.
Ou victime d'accident avec des trucs radioactifs, mais effectivement, d'un côté on a les personnages de Superman, Batman, Wonder Woman qui sont des archétypes, et de l'autre on des archétypes plutôt patriotiques et des dieux effectivement, et de l'autre on a plutôt des personnages plus pop, plus pétillants, effectivement, qui sont plus faillibles. Mais là où finalement Superman, il incarne l'espoir, là où Batman il incarne l'avant. Spider-Man, lui, il incarne plutôt le cœur. Mmh. C'est ça qui touche. C'est ça qui est attendrissant. C'est ça qui nous permet une identification beaucoup plus forte avec Spider-Man.
Oui. Alors, le temps file, et c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des adaptations au grand écran et au petit écran aussi de Spider-Man, parce qu'il y a eu des séries télé aux environs des années 70 qui n'ont pas forcément fait date, à part peut-être pour leur côté un peu kitsch. Et puis, 2002, il y a la relance de la série Spider-Man par Sam Raimi.
Il faut que quelqu'un l'arrête.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
C'est mon don.
Wow.
C'est ma malédiction.
Qui êtes-vous ?
Qui je suis ? Je suis Spider-Man.
Alors on va pas refaire la saga juridique de l'achat et de la revente des droits entre Marvel, Sony et les autres. En tout cas, ce qu'on retiendra, c'est qu'effectivement il y a cette première trilogie avec Tobey Maguire dirigée par Sam Raimi, succès énorme, hein, 403 millions rien que pour le premier film. Est-ce qu'il fallait attendre, comme un peu pour Avatar de James Cameron, est-ce qu'il fallait attendre que la technologie soit à la hauteur de la fiction dans ce cas-ci pour que ça marche ?
Ah oui, clairement.
Ouais, c'est oui.
Moi, j'ai vu les projets naître dans un vieux magazine qui s'appelait Wizard à l'époque, où on parlait déjà d'une possible adaptation de Spider-Man, mais où ils n'avaient pas du tout les moyens de leurs ambitions. Et puis après, je crois qu'il y a même des noms comme Steven Spielberg qui avaient été annoncés pour travailler là-dessus. Mm-hmm. Mais tant qu'on n'a pas la technologie pour pouvoir rendre la chose crédible, ça ne marche pas. Moi, j'ai vu un film il y a très très longtemps, qui date des années 70-80, dans lequel on voit un Spider-Man en collant un truc innommable, où sa toile d'araignée est un filet de pêche. C'était vraiment, c'était d'un ridicule. Ils ont fait un Captain America dans cette même veine-là, où le gars, il a une espèce de casque de moto avec le A écrit dessus. Oui, clairement, on a essayé de faire des mauvais films avec peu de moyens, et clairement, il fallait avoir les sous pour rendre la chose présentable au public.
Mmh. Olivier ?
Mais c'est exactement ça. Moi, je me souviens très bien qu'en 78, pendant l'été, je traîne mon père au cinéma à voir le Spider-Man, parce qu'il était, il avait, en fait, c'est un feuilleton qui avait été reconstitué et qui est avec Nicholas Hammond dans le rôle de Spider-Man. Et donc, j'étais allé voir ça au casino d'Osgore. Et je peux vous dire qu'on est ressorti dépité, parce que moi, je ne reconnaissais pas du tout le personnage que j'avais lu dans les Strange que j'avais acheté à l'époque, et mon père s'était ennuyé, mais d'une rare force. C'était tellement mauvais, même moi, gamin, je me rendais compte que c'était nul. C'était une catastrophe. Et oui, donc, et bien évidemment, il fallait attendre que la technique, les effets numériques puissent libérer l'imagination et permettre à Spider-Man de swinguer avec beaucoup de grâce et de chorégraphie sur les gratte-ciel de New York. Il y a rien de tel que ces quelques séquences mises en scène par Sam Raimi qui ont coûté je ne sais combien de millions de dollars, mais qui sont d'un effet incroyable, même toutes ces années après. Quand vous regardez le premier Spider-Man de 2002 et que vous voyez Spider-Man en fait jouer un peu une sorte de Tarzan dans l'asphalte comme ça, se balader, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est magique, et ça l'est toujours. Et c'est une des grandes marques de fabrique de la première trilogie de Sam Raimi, c'est cette espèce de capacité comme ça à swinguer d'un immeuble à l'autre, d'une toile à l'autre, dans un décor absolument extraordinaire, citadin, avec ses grands immeubles, ses grands gratte-ciels, voilà, c'est vraiment merveilleux et magique. Comme vous disiez, c'est génial.
Moi, j'ai une grande préférence pour le premier film The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield.
Qui est quand même l'outsider, qui a été un peu mal aimé.
Ouais, c'est le mal aimé. Ils ont raté le deuxième film. Mm-hmm. Ils espèrent en faire un troisième. Je pense qu'il y a une porte qui a été ouverte récemment.
Il y a eu une pétition, effectivement, sur les réseaux sociaux pour le retour d'Andrew Garfield.
Moi, j'ai lu qu'Andrew Garfield aurait signé un gros contrat.
Vous avez des infos.
Ouais, j'ai des infos. mais il faut voir si elles se concrétisent.
Ouais.
Mais oui, moi, j'ai une grosse préférence pour ce premier film The Amazing Spider-Man, avec Andrew Garfield qui fait vraiment la bonne jonction entre le personnage de bande dessinée dans son évolution presque adulte.
Oui, et son côté un peu dark, effectivement, ça c'était en 2012-2014, c'était signé Mark Webb. Puis il y a eu 2017, le retour de Tom Holland via les Avengers et la relance avec Spider-Man No Way Home, qui a été un carton aussi, on est à plus d'un milliard au box-office, et qui réunit les trois incarnations, ce qui a finalement réconcilié tout le monde. C'est aussi le seul super-héros qui se retrouve sans cesse face à lui-même, Spider-Man, finalement.
Ouais. C'est évident. Hein. C'est vrai que le personnage de Spider-Man dans ses trois incarnations avec Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, c'est trois générations quelque part de spectateurs qui se retrouvent. C'est vrai que moi aussi j'ai une grande tendresse pour le personnage d'Andrew Garfield. Hein. Je comprends tout à fait. C'est le film et les deux films de Mark Webb sont assez forts. Ne serait-ce que parce que moi quand j'étais môme et que je lisais la BD, je m'étais profondément attaché à Gwen Stacy et le l'histoire.
La petite amie, effectivement.
La petite amie
de Spider-Man.
C'est la seule et unique fois, en fait, dans l'histoire des comics qu'un personnage va mourir. Et moi, ça m'avait profondément marqué quand j'étais môme. Et donc, que finalement, Mark Webb décide de se concentrer sur la mort de Gwen Stacy, raconter ce chapitre-là, ce qui n'avait pas été fait par Sam Raimi, était une idée plutôt brillante. Mais il faut bien avouer que le personnage d'Andrew Garfield, mis en scène par Mark Webb, est quand même plus adulte que le Tobey Maguire de la trilogie de Sam Raimi. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé de montrer les films à mes enfants, qui ont 9 et 10 et 12 ans. Ils n'accrochent pas.
Mais non, ça a vieilli, effectivement.
Non, c'est pas que ça a vieilli, c'est que le personnage est trop vieux pour eux.
Trop vieux pour eux, effectivement.
Trop âgé. Alors que le Tobey Maguire, ils sont fascinés. Bon, voilà, 9 et 12 ans, c'est une frange, et ce sont des pré-ados et des enfants. Mais par contre, oui, le vrai jeune adulte, le young adult, comme disent les Américains, c'est profondément identifié à Andrew Garfield.
Oui. Et ben, justement, le temps nous manque, hein, on pourra encore en discuter des heures de ce Spider-Man et de son univers complexe, son multivers, ses clones, les différents resets aussi de la série. Moi, je vous propose qu'on se quitte justement sur ce trait d'humour mythique d'Andrew Garfield dans Spider-Man qui arrête un voleur de voiture. Juste le temps de vous remercier, Olivier Delcroix et Gilles Degaine. Je rappelle, Olivier Delcroix, votre livre Les super-héros au cinéma, c'est paru chez Houbeck. Quant à vous, Gilles Degaine, on vous retrouve chez Slumberland si on veut prolonger la conversation.
Tout à fait. À Woluwe, je vous attends.
Voilà. Et on se quitte avec ce joli extrait de Spider-Man, The Amazing Spider-Man.
Tu sais, à l'avenir, si t'as l'intention de voler des voitures, te déguise pas en voleur de voiture.
Et t'es qui, toi? T'es un flic?
T'es sérieux? Tu crois vraiment que je suis un flic? Un flic en combi moulante rouge et bleu? Non, là, j'avoue, franchement, tu... T'as l'esprit d'analyse d'un type qui a fait de longues études. Je m'attendais plus à être pris pour un pilote de bobsleigh. Ah ouais, j'ai bien vu ça, j'ai bien vu. Utilise la fenêtre. Sors par la fenêtre. Vas-y, bravo, t'as réussi. Oh. Entrejambe !
Laisse-moi passer, c'est un vrai.
C'est un couteau ? C'est okay. Un vrai couteau ?
Il est vrai, le couteau.
Mon point faible ! Le petit couteau !
Tu me laisses passer, pigeon.
Non, mais pas un couteau ! Oh, c'était trop facile. C'était carrément...
C'est quoi, ce bordel ?
C'est une toile que j'ai conçue moi-même, mais bon, je crois que t'as d'autres chats à foutre.
Allez, laisse-moi partir !
Ok, une seconde.
C'est bon, ça suffit maintenant. Décolle pas, laisse-moi partir. Arrête. C'est pas marrant, mec.
Si, moi je trouve ça plutôt marrant.
Au secours.
La première.
9h, 10h.
C'est génial.